18h30, place maintenant au débat des grandes voix. Thierry, avec ce soir Jérôme Sainte-Marie, le président de l'Institut Pauline Box, auteur de Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du Cerf. Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique au Parisien aujourd'hui en France. Et Gérard Carrérou.
Et bonsoir à vous trois. Belle, heureuse année à vous trois. Merci d'être présents ce soir. 39-21, si vous voulez prendre part à ces grandes voix. Emmanuel Macron a parlé hier soir 18 minutes. Et si l'on résumait les vœux présidentiels en une minute. On va écouter Emmanuel Macron hier soir.
La réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. J'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide.
Voilà les deux phrases clés. Hein. Pas de retrait de la réforme des retraites et à Édouard Philippe de gérer le dossier. Quelle pression, dites donc, sur les épaules du Premier ministre Jannick Halimi?
Oui, bah c'est une pression quand même que le Premier ministre ne doit pas, et nous-mêmes ne devons pas découvrir depuis hier.
Hein. C'est vrai.
C'est quand même
on l'a vu seul, voilà. Seul au front.
Enfin, oui, on l'a vu seul. À mon avis, il n'était pas seul. Il y avait quand même
derrière,
Emmanuel Macron qui devait l'inspirer
derrière.
Et qui lui mettait également une certaine pression. Voilà, mais quand on dit pression, faut voir aussi ce qu'on entend. Hein. Si c'est une sorte de mise à l'épreuve, on a toujours tendance à voir des frottements, voire des contentions entre le président et son Premier ministre. Je ne crois pas, parce que si ça avait été le cas, une sorte de mise à l'épreuve, ça aurait voulu dire que le chef de l'État désavouait d'une façon ou d'une autre soit la façon de faire, soit le fond de la réforme menée par Édouard Philippe. Ce n'est pas le cas, puisque Emmanuel Macron est droit dans ses bottes. Donc c'est une pression, effectivement, pour qu'il réussisse ces négociations.
Ouais.
Mais moi, pardonnez-moi, je termine, je retiens une chose dans le résumé que vous avez fait passer. Il n'y a pas que la pression sur Édouard Philippe et le fait que Emmanuel Macron dise je garde le cap. Je retiens aussi un compromis rapide. C'est-à-dire que ce que je retiens, c'est que Emmanuel Macron veut qu'Édouard Philippe aille vite et qu'on passe à autre chose.
On rappelle les dates, hein, rentrée du gouvernement, premier conseil des ministres le 6 janvier, négociation le 7 janvier. Normalement, la loi...
mobilisation le 9,
mobilisation le nationale. 9, et la loi qui arrive normalement au conseil des ministres le 22,
le 22
janvier.
Le 22 et fin février au Parlement.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, la phrase la plus importante, les mots les plus importants, ce vient d'être dit, c'est sans doute cette notion de compromis rapide. Donc, deux possibilités. Soit les négociations ont déjà beaucoup avancé avec des syndicats comme l'UNSA.
Cette trêve.
Et la CFDT, oui, bien sûr, les gens continuent à discuter, quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, pour le 7, les choses sont déjà calées et il y aurait comme ça une rupture du front syndical. Soit ce n'est pas le cas, et c'est uniquement un vœu pieux, dans ce cas-là, c'est tout à fait différent, parce que tout ça ne dépend pas exclusivement d'Édouard Philippe, bien entendu. La vraie question, c'est est-ce que la mobilisation va continuer, c'est-à-dire la mobilisation dans les transports publics, mais surtout, est-ce qu'il va y avoir une extension, parce que je pense que les grévistes, là, ça fait une des grèves les plus longues que l'on ait connues dans les transports, sinon la plus longue, et ils sont eux-mêmes épuisés physiquement et sans doute financièrement, et donc effectivement, c'est le pari du pourrissement qui a été fait largement par le gouvernement. Soit ils ont des indications disant qu'effectivement, ça peut s'arrêter. Mais je pense qu'ils ne le savent pas. Je pense qu'en réalité, le jeu est encore suspendu et on en saura davantage dans les jours qui viennent, notamment lundi.
Gérard Carrérou.
Oui, moi, j'ai été un peu surpris. Je m'attendais, étant donné les précédents, je m'attendais à ce que le président de la République fasse un coup. On avait dit qu'il n'en ferait pas, et justement, je me disais, peut-être va-t-il en faire un. Quand je dis un coup, ça veut dire qu'il a fait deux interventions au moment des Gilets jaunes. Il y en a une où, baf, il a mis sur la table 17 milliards, et la deuxième, il a mis sur la table, ce qui a été une idée formidable, d'ailleurs, une très bonne idée pour lui, le grand débat. Là, il n'y a pas eu, vous l'avez rappelé, on a donné l'essentiel, il n'y a pas eu le grand coup.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il y a eu, par
Pourquoi,
contre
selon vous?
Ah bah pourquoi? Parce que je pense qu'il n'avait pas...
Il a non, pas... parce que ça rejoint...
On ne fait pas deux bons coups en six mois.
Oui, c'est ça.
Non,
et il n'avait pas... Alors, c'est simple. Hein, le seul grand coup qu'il aurait pu faire, et c'était un peu à celui-là que j'avais pensé, je me disais, bon, bah, il va déconnecter la réforme par point du financement. En disant, la réforme par point, on va jusqu'au bout, d'ailleurs c'est positif, ce qu'il a fait. Et deuxièmement, mais par contre, en ce qui concerne le financement, comme les syndicats ont des propositions, ils nous ont dit qu'ils avaient des choses à proposer, on va remettre ça tranquillement à l'année prochaine. Bon, il ne l'a pas fait. Ça a des conséquences. Ça veut dire que, un, il y a d'abord une interrogation qu'on avait un peu, on se disait, ça courait un peu dans les milieux, comme on dit, autorisés, on disait, est-ce que Macron et Philippe sont vraiment sur la même ligne ? Là, je crois qu'hier soir, on ne peut pas dire qu'il y a eu une papier à cigarette entre les deux, ils sont sur la même ligne, puisqu'il y en a un qui ordonne, en quelque sorte, ou donne une injonction à l'autre de faire ceci dans la ligne de ce que je viens de dire. Premier point. Deuxièmement, par contre, l'interrogation qui subsiste, c'est quand on dit il faut un compromis, surtout rapide.
Rapide.
Un compromis, c'est quoi ? C'est on fait une discussion, on n'est pas d'accord au départ, on fait une discussion et on fait des concessions.
Ouais.
On donne quelque chose, on enlève quelque chose. Alors, qu'est-ce que peut enlever aujourd'hui pour faire redémarrer le pays ? Que peut enlever aujourd'hui dans son projet initial le président et le Premier ministre ? Allez, à part les 64 ans qui peuvent être modulés, parce que c'est quand même ça qui a fait partir Berger, c'est ça qui a fait que l'UNSA n'est pas d'accord.
D'ailleurs, l'âge pivot, on n'a pas un mot hier soir.
Ah si, quand même, pardonnez-moi.
Oui. Enfin,
justement, en évoquant...
directement, voilà, une évocation.
Oui, mais quand même, une évocation, mais tout de même, Emmanuel Macron a dit précisément, aujourd'hui, il y a des catégories de population
voilà.
qui partent pour avoir le taux plein, ou leur carrière entière, après 64 ans. Donc c'est à peine subliminal. Tout
c'est
de même,
quand même
hein.
pas gagné quand on entend les propos de Martinez ce matin, le patron de la CGT. Rien de nouveau, président enfermé dans sa bulle. C'est le retrait ou c'est rien d'autre ?
Oui, mais alors, pardon, je finis juste.
Gérard Carrérou.
Ce que je voulais dire, c'est que peut-être, il ne dira pas, puisqu'il ne l'a pas dit hier, il ne dira pas plus dans quelques jours. Le Premier ministre non plus. Il ne dira pas, on renonce aux 64 ans. Mais peut-être y a-t-il. Une idée qui est la suivante, c'est d'arriver à faire sortir des 64 ans le plus grand nombre de gens, de manière à diminuer les bataillons de ceux qui sont contre, en disant par exemple qu'un certain nombre de professeurs, c'est-à-dire le coût de la pénibilité appliqué aux 64 ans. On dira 64 ans c'est pour tout le monde, sauf pour tous ceux qui, et alors là on aura une liste de critères, seront traités par la pénibilité, donc sortiront du truc.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, simplement, ne prenons pas la partie pour le tout. La petite partie, c'est cette phrase sur le compromis. Le tout, c'est un discours d'une très grande radicalité. Le président de la République a répété qu'il ne céderait rien au pessimisme. Il a repris un peu les accents qu'il avait eus en 2017, quand il disait qu'il ne céderait rien aux feignants, aux cyniques, aux extrêmes. Il a rappelé, comme en 2017, que dans ce discours qu'il avait tenu à Athènes en septembre, son désir et sa volonté d'une transformation profonde du pays. Et de fait, il a montré qu'il restait exactement dans la ligne de son quinquennat, décidé à libéraliser la France, par exemple. Chose très importante. Alors même qu'il parle de justice sociale durant 18 minutes, il indique la baisse de l'impôt sur le revenu.
Ouais.
C'est-à-dire le seul impôt un peu redistributif que nous ayons, qui a été depuis 1914, je le rappelle, l'impôt sur le revenu a été considéré comme une conquête sociale et comme un élément de justice sociale. Il annonce qu'il va le diminuer. Alors, c'est tout à fait normal, puisque...
Il annonce pas, pardonnez-moi, il confirme. Hein,
c'était déjà fait.
Il confirme,
mais c'est majeur. En termes de transformation de notre modèle social, ça tombe bien, ce n'est plus payé que par moins de la moitié des ménages français, et plutôt la moitié haute, et donc plutôt la moitié qui vote pour Emmanuel Macron ou François Fillon, donc les 40% qui soutiennent actuellement l'exécutif.
Donc, je ne suis pas d'accord parce que les...
Non,
ce qui a été voté et ce qui va être appliqué dès maintenant... Ça concerne les deux premières tranches, c'est-à-dire ceux qui sont juste au-dessous de ceux qui ne payent pas. Ouais. C'est-à-dire la première et la deuxième tranche. Et là, on touche des gens qui sont véritablement les classes moyennes ou moyennes supérieures ou moyennes inférieures.
Moyennes supérieures, parce que par définition, moyennes supérieures,
ils vont
Français,
ils vont pas bénéficier.
Il y a de 12 000 à 75 000 par an, avec une baisse différenciée selon la catégorie où vous trouvez. Non, ce que je voulais rajouter, si on peut sortir du débat sur la retraite, on peut s'en extraire un petit peu. Jérôme Saint-Olive parlait du quinquennat, disait que M. Macron parlait du quinquennat. Mais moi, je dirais que M. Macron a parlé d'autre chose du quinquennat que le quinquennat. Il a parlé de la décennie qui s'ouvre. Alors la décennie qui s'ouvre, ça peut être évidemment l'ouverture, le commencement des 2020, mais c'est aussi, si on se moque un petit peu, ou enfin qu'on veut faire un petit clin d'œil, c'est aussi deux quinquennats.
Bien sûr.
Et donc, à mon avis, hier...
Vous pensez qu'il pense déjà à sa réélection ?
Et ben, bien sûr, Emmanuel Macron, hier, si tant est que on pouvait encore avoir des doutes, a annoncé qu'il était candidat à sa succession de façon... Pas précise, mais claire.
On va aller au standard, écouter un peu nos auditeurs. Bonsoir Albert.
Bonsoir Thierry.
Vous nous appelez de Strasbourg. Bonne année à vous.
Oui.
Vous avez regardé
Merci.
Emmanuel Macron hier soir.
Voilà. Eh bien, écoutez, ces vœux m'ont quelque peu inquiété. Voilà. Oui, dans le sens où que je me suis dit bon, bah, apparemment, le rapport de force va continuer. Et finalement, je me suis dit, d'un côté, ça ne cède pas, de l'autre côté, ça ne cède pas. Ouais. Les deux extrêmes viennent à s'annuler finalement. Donc, ouais. Ça m'a inquiété dans le sens où que, eh ben, c'est que l'avenir, c'est qu'il ne va pas se passer grand-chose. Hormis qu'on nous rappelle quand même qu'on est dans un régime présidentiel, ouais. Qu'on a quand même un exécutif qui a annoncé la couleur en disant « Voilà, il y a un temps pour négocier et un temps pour décider. Ouais. » Donc, je crois que là, on approche du temps de la décision et que l'avenir nous dira si c'était une décision sage ou pas. Mais ouais. À un moment donné, je crois que les négociations, il y a un temps, mais arrive à un moment donné, il faut aussi prendre des décisions.
Merci,
voilà,
donc, merci beaucoup. Merci Albert, vous nous appelez de Strasbourg. Mais c'est vrai, c'est ça ce soir, Jannick Halimi. La question, c'est, voilà, lundi, on va reprendre le boulot, la grève sera là.
Pas
on
tout
aura
le monde,
toujours,
oui.
Pas tout le monde. On aura toujours autant de difficultés, finalement, pour les usagers à prendre un métro, un bus.
Oui, oui, mais ça...
Et ça peut durer comme ça longtemps, il n'y a pas de sortie pour l'instant.
Alors, il n'y a pas de sortie. On parlait tous de rapports de force, de bras de fer, voire de tentatives de passage en force hier de la part d'Emmanuel Macron, ou d'ailleurs dans les propos de Jean-Luc Mélenchon qui parle de guerre de la part d'Emmanuel Macron, ou alors de M. Martinez qui parle, qui appelle tout le monde, là, tout le monde à faire la grève. Bon, effectivement, il y a ce problème-là, même si, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on voyait des taux de grévistes diminuer, mais enfin, on va parvenir là-dessus, il y a les vacances, etc., etc. Mais je dirais quand même qu'il y a effectivement deux rendez-vous qui vont scander ce bras de force et qui vont donner la température. C'est bien sûr le début des négociations le 6 janvier. Ce ne seront que des débuts de négociations, il ne faut pas s'attendre quand même à énormément de choses. Par contre, ce qui risque d'être sinon déterminant, en tout cas extrêmement influent sur la suite des opérations, c'est bien sûr la mobilisation du 9 janvier. Est-ce qu'elle sera, un, massive, et deux, est-ce qu'on va assister à la convergence d'autres professions que celles concernées par les statuts, les régimes spéciaux?
On a la chance d'avoir un sondeur avec nous ce soir, Jérôme Sainte-Marie. L'état de l'opinion?
Alors, l'état de l'opinion, il est assez stable depuis maintenant plusieurs semaines, d'autant plus qu'il y a très peu de sondages qui sont faits pour la période des fêtes.
Mais après 28 jours de grève.
Voilà, qui a été publié hier, je crois, d'Aris Interactive, montrant que 40% des Français ont une bonne opinion du président de la République. Et c'est comme ça s'est déjà produit à peu près de la même manière au début du quinquennat en 2017, lors de la réforme précisément du Code du travail, puis après de la SNCF, le président de la République reçoit le renfort assez important des électeurs de François Fillon, très largement, qui se retrouve pleinement de son côté, ou presque pleinement de son côté, face à la CGT, face à tout cela. Ça signifie quand même, ces 40%, que le président de la République demeure impopulaire. Il est à 9 points au-dessus pour Aris Interactive qu'il y a un an, où là, il était à 31%, c'était en pleine crise des Gilets jaunes, mais il demeure impopulaire. Il faut rappeler également qu'une majorité, pas écrasante, mais une majorité des Français sont hostiles à la réforme des retraites telle qu'elle est présentée, ont de la sympathie ou expriment du soutien pour le mouvement de grève. Et si on s'intéresse aux actifs, c'est-à-dire ceux qui sont réellement concernés par la réforme, à ce moment-là, la proportion est beaucoup plus importante. On arrive à ce résultat d'une majorité relativement faible en faveur du mouvement parce que les retraités, eux, sont, pour les deux tiers d'entre eux, hostiles au mouvement et favorables à une réforme qui a cet immense mérite, à leurs yeux, de ne pas les concerner.
Allez, on continue dans un instant. On va vous retrouver les grandes voix. Il y a un syndicat qui est aux abonnés absents, tout de même, c'est la CFDT. Ben, on va en parler dans un instant. On va essayer de comprendre pourquoi. A tout de suite.
Jusqu'à 20h, vous écoutez votre grand journal du soir avec Thierry Dagiral sur Europe 1. Il est 18h45, la suite du débat des grandes voix dans votre grand journal du soir. Thierry Dagiral, vous vous êtes entouré ce soir de Gérard Carrérou, Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique au Parisien aujourd'hui en France, et Jérôme Sainte-Marie, le président de l'Institut Pollingvox, auteur d'un livre paru aux éditions du Cerf et qui est intitulé « Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme ».
Plutôt bien entouré ce soir pour parler des vœux d'Emmanuel Macron hier soir. On va parler de la CFDT dans un instant. Gérard Carrérou, on parlait de l'opinion il y a un instant. Vous vouliez réagir à ce que disait
Jérôme Sainte-Marie. Oui, sur l'opinion, je voulais juste reprendre une idée qui a été développée par, par Yannick, c'est-à-dire l'idée de la candidature en pointillé d'hier soir. C'est vrai, la décennie, il est revenu deux fois sur l'idée qu'il fallait les 10 ans, etc. Et on entend dans l'entourage, depuis longtemps, on dit, vous comprenez bien, pour ces réformes, pour changer le pays, il faut au moins 2 mandats, etc. Donc on comprend très bien qu'il sera candidat une deuxième fois. Il n'y a vraiment personne qui en doute, a priori. Deuxième chose, c'est on voit aussi les forces politiques, comment elles s'organisent. Avec cette réforme, on ne sait pas quelle en sera l'issue, mais ce qu'on sait très bien, c'est qu'on le voit très bien, c'est qu'il a réunifié la droite derrière lui. Pratiquement la droite in et la droite out. La droite in, c'est-à-dire celle qui s'était déjà ralliée après l'élection présidentielle, et celle qui était encore dehors, pratiquement, elle est d'accord sur la retraite à point. En tout cas, au moins sur la retraite à point. On voit donc s'esquisser une nouvelle,
voilà,
à travers
là,
une majorité déportée à droite, parce que la gauche, par contre, il l'a complètement
siphonné
contre lui, et toutes les gauches aujourd'hui, dans cette affaire des retraites, toutes les gauches sont contre lui.
À part
tous le ministère qui... CFDT.
Non, mais tous les. D'ailleurs,
les Verts,
le lien avec la CFDT.
Les Verts ne sont pas d'une opposition frontale sur les retraites.
Tous les cadres, notamment issus de la deuxième gauche, du rocardisme, du trotskanisme, qui ont rejoint La République En Marche il y a 3 ans.
Oui, mais ils sont déjà.
Ils y demeurent. C'est important dans le.
Alors, on l'évoquait juste avant la pause, il y a un syndicat qui est absent depuis ce matin, la CFDT, qui joue pourtant, on le sait, un rôle clé. C'est le seul syndicat favorable sur le fond au système de retraite universelle par points. Ça veut dire quoi? Laurent Berger a juste fait un tweet dans l'après-midi pour souhaiter bonne année à ses adhérents, mais c'est tout.
Laurent Berger est un peu gêné. Hein.
Qu'est-ce qui se joue en coulisses?
Ce qui joue, c'est compliqué, hein, parce que la CFDT, je pense qu'elle s'est fait cocufier, pardon du mot, par le pouvoir, enfin par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, alors que c'était le syndicat qui avait inspiré la réforme et en tout cas qui la soutenait. Et pourquoi est-ce qu'encore une fois, je me pose toujours la question, je n'ai pas de réponse, pourquoi est-ce qu'Édouard Philippe et donc Emmanuel Macron a sorti ce chiffon rouge au moment de la présentation en début décembre par Édouard Philippe de la réforme, alors qu'il savait très bien que c'était une ligne rouge pour la CFDT. Je ne comprends pas, même s'il y avait des raisons financières, admettons-les, qu'on découvre à la dernière minute, j'ai du mal. Mais on aurait pu tout de même présenter les choses différemment, ça premièrement. Et deuxièmement, le problème pour la CFDT, c'est qu'on le voit avec les grèves, c'est qu'elle est discréditée par sa base. Mmh. C'est-à-dire que la base, au moins, à la RATP, mais surtout à la SNCF, ne suit pas, pardonnez-moi, les mots d'ordre de modération, en tout cas jusqu'aux 64 ans, lancés par Laurent Berger.
Gérard,
la difficulté de la CFDT, elle a à la fois la clé et il y a effectivement l'humiliation, parce que c'est vrai ce que vient de rappeler Yannick, c'est l'humiliation de la CFDT. Berger est quelqu'un, et je crois que c'est un sentimental quelque part, Berger, dans tous les leaders.
Pas Emmanuel Macron. Hein.
Non, mais dans les leaders syndicaux, c'est le seul qui est un peu ce. C'est ça la fibre CFDT, la fibre cateau de gauche, etc., qu'on connaît bien. Il a été vexé. On l'a traité comme vraiment pique-pendre. Hein, quand il a lancé une idée au moment des Gilets jaunes, on l'a renvoyé dans le mur, etc. Et on l'a humilié avec l'histoire des 64 ans annoncés et sur lesquels on n'a pas renoncé. Donc je crois qu'en plus, il est maintenant un peu prisonnier lui-même. Il a fait le bras de fer avec les 64 ans et si on ne touche pas aux 64 ans, c'est toute la difficulté, c'est ça qu'on va négocier dans les prochains jours. Si on ne touche pas aux 64 ans, je ne vois pas comment Berger peut revenir.
Alors Jérôme Sainte-Marie, puis on ira au standard.
Oui, ça nous rappelle la nature des syndicats. Les syndicats, c'est quand même des gens qui représentent a priori les intérêts de leurs adhérents et de ceux qui votent pour eux. Donc la CFDT, désormais, aux dernières élections professionnelles, c'est 26%. Donc c'est un tout petit peu devant la CGT, mais c'est pas non plus... c'est 26%, c'est pas mal, mais c'est pas non plus tous les salariés. Mais en tout cas, ils doivent défendre les intérêts. Or, les salariés se sont largement convaincus que cette réforme ne leur profitait pas. Notamment que cette question des 64 ans allait être négative pour eux. Ils avaient quelques doutes. Le fait de voir qu'un certain nombre de professions désormais échappent à la réforme, ce qui est présenté plutôt comme un avantage que comme un inconvénient, n'est pas fait pour les rassurer.
Au 39-21, André vient de nous contacter. Bonsoir André.
Bonsoir.
Belle année à vous.
Bonsoir.
Vous nous contactez d'Évian-les-Bains. On vous écoute.
C'est ça. Simplement, j'ai écouté les vœux du président de la République hier soir. Alors, comme toujours, mais comme la plupart de ses prédécesseurs, le paquet cadeau et le ruban sont très jolis, c'est bien emballé. L'ennuyeux, c'est que la boîte, elle est vide. Il n'y a rien, si ce ne sont des positions clivantes et très rigides. Or, pour pouvoir se permettre d'avoir des positions clivantes et rigides, il faut vraiment avoir une majorité sûre et forte derrière soi, et pas seulement à l'Assemblée nationale. Si je peux me permettre une comparaison, il faut être Churchill ou De Gaulle quand ça va mal. On n'est pas dans cette situation-là, et il n'est pas Churchill et il n'est pas De Gaulle. Donc je crois que parier sur le pourrissement de la grève et sur le les problèmes financiers des grévistes, c'est un peu ça qui est en latence dans ces propositions. Ils ne tiendront pas beaucoup plus longtemps. Il faut faire attention parce que ça peut revenir comme un boomerang et ça peut créer, au contraire, ça peut fédérer d'autres qui n'étaient pour l'instant pas en grève et qui pourraient rejoindre la grève.
Merci, merci à vous André Dévian-les-Bains. Jeannick Halimi, attention au boomerang.
Ce monsieur a raison. Hein. On parlait effectivement du risque, en tout cas pour l'exécutif, d'une convergence des luttes et miser sur un pourrissement soit politique, soit financier, est toujours très risqué. Il n'empêche qu'en termes, donc ça c'est vrai, ça il n'y a pas de doute, qu'en termes strictement stratégiques, si je puis dire, on parlait de la CFDT sur lesquelles le gouvernement ne cherche plus du tout à s'appuyer. Ouais. En revanche, on a l'impression que le bras de fer est entamé volontairement, un peu comme Macron l'a fait avec Marine Le Pen et continue à le faire avec le Rassemblement National, prend Philippe, et réciproquement, ouais, hein, Philippe Martinez et la CGT comme débatteur unique, si je puis dire, en espérant que l'opinion publique fasse quand même à la radicalité du discours, voire de certaines actions menées par la CGT, en espérant pour Emmanuel Macron qu'une partie de l'opinion publique finisse par se désolidariser des grévistes, même si sur le fond de la réforme, on l'a vu tout à l'heure, tout le monde n'était pas en accord, loin de là, avec le projet d'Emmanuel Macron. Donc voilà peut-être ce qui se joue dans les semaines qui viennent, avec encore une fois comme point d'orgue, en tout cas comme baromètre d'étape extrêmement important, cette journée du 9 janvier.
9 janvier, Jérôme Sainte-Marie.
Oui, le monsieur appelant d'Aix-les-Bains a effectivement raison à mes yeux. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a beaucoup parlé d'unité. Enfin, le président de la République a beaucoup parlé d'unité, de rassemblement, rassembler les Français, etc. Mais tous ces propos, à mon avis, auront plutôt produit l'effet inverse. Il assume sa politique, il explique qu'il y a déjà des résultats. Il le fait dans le préambule, d'ailleurs, de son intervention, qu'il y a des résultats formidables en termes d'emploi, etc. Donc, à partir de là, on a compris qu'il n'allait pas du tout infléchir sa politique. Il ne le fait pas. Et il va même plus loin. J'ai été frappé par le fait qu'il dit quelque chose qui est entièrement faux, mais qui est très significatif. Il dit que ses prédécesseurs, à la moitié du mandat, arrêtaient de réformer. Oui. Il sait que c'est totalement faux, puisque François Hollande, justement, lors de ses vœux du 31 décembre 2013, avait annoncé le pacte de responsabilité, donc des réformes libérales importantes, largement inspirées probablement d'ailleurs par Emmanuel Macron, qui était à l'époque à l'Élysée, et qui Or, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron dit quelque chose qu'il sait erroné historiquement ? Ce n'est pas uniquement pour déprécier ses prédécesseurs. C'est pour annoncer aux auditeurs, aux Français, qu'il va y avoir encore plus de réformes dans la seconde partie du quinquennat, qu'on n'a encore rien vu, et qu'en quelque sorte, s'il triomphe de la grève des transports, ça sera toute chose égale par ailleurs, un petit peu comme Margaret Thatcher quand elle avait vaincu la grève des mineurs en 1983 ou 84, un peu comme Reagan quand il avait vaincu la grève des aiguilleurs du ciel aux États-Unis au début des années 80, et que cela permettrait, une fois la principale résistance syndicale surmontée, de libéraliser toute une série de domaines, gros, comme la sécurité sociale, qui
ceintures,
n'ont pas encore été touchés.
Ah, bon, alors, moi, je ne sais pas. Peut-être que Jérôme Sainte-Marie et pas Saint-Olive, pardonnez-moi, a des informations que je n'ai pas. En revanche, moi, j'ai écouté le discours hier d'Emmanuel Macron. Et si, effectivement, il y a une deuxième partie au quinquennat, après cette réforme, finalement, qu'il faut faire très vite, je parle de la réforme des retraites, il en a donné quelques pistes. Il a parlé, alors on peut estimer que ce n'est pas assez, hein, mais il a parlé de l'écologie. Et que va-t-il sortir des conventions nationales, la populaire sur l'écologie ? Peut-être des grandes mesures, peut-être même, pourquoi pas, un référendum après les municipales sur l'écologie. Et il a parlé aussi de la laïcité, de la lutte contre le communautarisme.
Avec un discours qu'il nous avait promis, qu'on attend toujours.
Voilà, donc des réformes qui sont clivantes, mais qui ne sont pas comme touchées à la sécurité sociale en tant que telle. Je pense que là je ne suis pas sûre qu'Emmanuel Macron le fasse, et qui peuvent être, en revanche, si elles sont clivantes, elles peuvent être aussi, plutôt soutenues par la gauche, comme par exemple l'environnement et les Verts, ou la laïcité. La laïcité, c'est peut-être plus pervers, parce que la gauche, au contraire, peut exploser, si je puis dire, sur la laïcité. La laïcité. On sait que la France insoumise, par exemple, et une partie des socialistes ne sont pas du tout d'accord sur ce sujet-là. Donc on voit qu'Emmanuel Macron en a encore pas mal dans les soutes, si tant est que la réforme des retraites lui laisse la possibilité d'aller plus loin.
Et la chose aussi qui est intéressante, c'est que Martinez, qui était devenu un peu un chiffon rouge et un repoussoir pour un certain nombre de gens, après des conflits précédents, n'a pas acquis ce statut de repoussoir dans la grève. Là, à condition, et il fait attention, à condition qu'il ne prenne pas des risques. Les risques inconsidérés, pour lui, ça peut être les coupures de courant à EDF. Ouais. Ça, ils ont tâté le terrain, mais ça passe pas bien. Et deuxièmement, l'essence. Les raffineries, où ils sont également, effectivement, la CGT est également très puissante. Mais ça, c'est des armes peut-être fatales pour l'opinion, et ça peut se retourner à ce moment-là contre les grévistes.
Jérôme Sainte-Marie, oui. L'opinion, c'est vous. Allons-y.
Oui, la situation de l'opinion est très complexe, en fait. Hein, ce qu'a dit M. Gérard Kérérou est vrai, M. Martinez n'est pas spécialement diabolisé. Il faut rappeler toujours que cette réforme est impopulaire, hein, quand même. Mais il y a au cœur de cette réforme quelque chose qui est populaire. C'est l'abolition des régimes spéciaux. Ouais. Or, c'est tout le paradoxe, ceux qui permettent au refus des Français par rapport à cette réforme de s'exprimer, ce sont les grévistes des transports, dont la cause particulière est-elle totalement impopulaire. C'est déjà un premier élément, si vous voulez, de complexité de l'opinion.
Jérôme Sainte-Marie qui vient de conclure, Jeannick Halimi, Gérard Kérérou pour les grandes voix ce soir. Un grand merci à vous trois. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1. À suivre, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le journal de 19h, on va revenir sur ce meurtre d'une jeune femme à Montpellier la nuit dernière.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.